France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus sur Inter, nous sommes le lundi 10 février. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la tempête hivernale qui poursuit sa route vers l'est de la France avec des vents de très forte intensité. On fait le point, Laurence, après les autres titres.
Opération de dépistage au coronavirus dans la station de ski des Contamines-Montjoie. La politique avec les municipales, coup de projecteur sur le Rassemblement National qui, à 5 semaines du scrutin, peine à trouver des candidats dans une vingtaine de préfectures. À l'étranger, le Mali qui sombre dans une guerre ethnique. C'est un rapport accablant de l'organisation Human Rights Watch. Les Oscars à Hollywood, le film coréen Parasite fait le plein.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
La réforme des retraites, les députés ne vont très probablement pas terminer l'examen en commission des 20 000 amendements sur le texte. Du coup, c'est la version originelle du gouvernement qui sera présentée dans l'hémicycle. Est-ce un mépris du Parlement? Les députés peuvent-ils encore améliorer le texte où tout est déjà plié? On pose la question à Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé des retraites au gouvernement.
Et à 8h20, Léa, pour le grand entretien de la matinale, nous recevrons l'économiste Gabriel Zucman, co-auteur du Triomphe de l'injustice, le livre le plus important depuis longtemps sur la politique gouvernementale. C'est le New York Times qui le dit. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Des vols annulés, des ferries interrompues entre la France et l'Angleterre, le trafic ferroviaire à l'arrêt dans l'ouest de l'Allemagne, la tempête hivernale Ciara décoiffe le nord-ouest de l'Europe. En France, 32 départements sont en vigilance orange. Le nord et l'ouest ont été particulièrement exposés, Béatrice Duguet, avec des vents très très forts.
165 km/h au phare de Gatteville dans la Manche, près de 140 au cap Griné dans le Pas-de-Calais, plus de 120 à Nancy, voilà qui vous donne une idée de la puissance du phénomène. Alors les pompiers ont certes passé une nuit assez agitée en Bretagne, en Normandie, sur le nord et l'est du pays. Un millier d'interventions, par exemple, de fuite la fin d'après-midi dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais tout cela pour des dégâts jusque-là classiques. Chute de fil électrique, chute d'arbres, beaucoup. Hangars endommagés, toitures envolées, notamment celle d'une école de Saint-Dié-des-Vosges. Pas de submersion marine signalée, mais la vigilance court encore jusqu'à cet après-midi à cause d'un coefficient de marée à plus de 100 en fin de matinée. Surtout, pas de dégâts humains signalés pour l'instant, c'est important. Évidemment, des milliers de foyers se trouvent sans électricité ce matin. Et beaucoup d'entre vous vont avoir du mal à se déplacer. Trafic TER très perturbé avec beaucoup de trains supprimés dans le Nord, en Lorraine, en Ile-de-France. Dans toutes ces régions, évidemment, les dégâts constatés seront certainement plus importants au lever du jour.
Béatrice Duguay, ajoutons que cette tempête se déplace maintenant sur les Alpes et la Corse. D'autres tempêtes, elles sont moins visibles. Elles se déchaînent à 150 millions de kilomètres de nos têtes. Alors parce qu'il est temps de les comprendre, car elles ont des incidences sur nos vies terrestres, la sonde Euro-American Solar Orbiter a décollé tout à l'heure de Floride, une nouvelle étape dans l'aventure spatiale dont on reparle dans le journal de 8h.
Il est 7h03, la suite du journal sur France Inter. Laurence Thomas.
Tous les tests sont négatifs. La station de ski des Contamines-Montjoie, en pleine saison touristique, retient son souffle. Les premiers prélèvements effectués sur une cinquantaine de personnes de la commune de Haute-Savoie sont rassurants. Il s'agit de savoir si les familles, les enfants et les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec les 5 ressortissants britanniques hospitalisés ont été contaminés, et notamment d'un enfant de 9 ans. Reportage au sein de la cellule de dépistage d'Annabelle Galotti.
Dès l'ouverture le matin, il y avait du monde. Il fallait attendre une bonne heure avant de rencontrer le premier médecin. À midi, l'impatience s'est transformée en énervement que la responsable de l'agence régionale de santé essayait de canaliser.
Je sais que certains attendent depuis longtemps. On va reprendre la chaîne de prélèvement.
Anne-Sophie Renaud-Barreau, médecin, devant les parents inquiets.
Les enfants de la classe restent. Quels sont ceux qui sont encore là?
Oui, sont dans la classe.
Mais classe, l'école, non, la classe du petit concerné, votre fille, elle tousse. Est-ce qu'elle a eu des contacts avec le petit?
À l'écart de cette agitation, Sabrina téléphone, un masque sur le visage. Son fils attend à l'intérieur du centre de dépistage.
Moi, comme j'ai un de mes enfants qui avait fréquenté la classe du même petit garçon et qu'il a quelques symptômes de toux, il a été du coup orienté vers le côté prélèvement. C'est un coton-tige qu'on lui a enfoncé au fond du nez et voilà, ça dure 30 secondes. A priori, c'était pas très agréable.
Comment vous vous sentez? Vous êtes un peu
Ça va. Pour l'instant, on attend au fur et à mesure les différentes étapes.
Après cette première prise en charge, l'agence régionale de santé indique que les personnes comme Sabrina et son fils doivent rester chez elles, s'isoler. Elles pourraient être mises en quarantaine. La période d'incubation du virus est d'une quinzaine de jours.
Annabelle Galotti de France Bleu, Pays de Savoie. Pour la première fois, le dispositif alerte enlèvement n'a pas fonctionné. La petite Vanille, âgée d'un an, avait déjà été tuée par sa mère vendredi lorsque l'alerte a été déclenchée dans la nuit. Cette femme de 39 ans qui souffre de problèmes psychiatriques est toujours placée en garde à vue à Angers pour meurtre aggravé après ses aveux. La politique et le Rassemblement national, premier parti de France au soir des européennes au printemps dernier, le restera-t-il au lendemain des municipales fin mars? Eh bien non, France Inter a enquêté, épluché la carte électorale et le résultat est sans appel. Dans deux tiers des départements, le parti de Marine Le Pen présentera moins de 5 candidats. Le RN a toujours autant de mal à s'implanter, à recruter des têtes de liste, même dans des départements où il réunit en général plus de 30% des votants. Autre chiffre frappant, Maxence Lambrecq, le RN sera absent sans candidat dans une vingtaine de préfectures en France.
Les zones blanches du RN. Aucune flamme à Orléans, Chartres, Bourges, Périgueux, Gap, Bastia, Colmar, à Mont-de-Marsan non plus. Dans le département des Landes, il n'y aura aucune liste et pourtant...
Le score du Rassemblement National au municipal aurait été assez élevé.
Christophe Bardin, délégué départemental du RN dans les Landes, au micro de France Bleu Gascogne. Et pourquoi il n'y a pas de liste chez lui?
Il faut poser la question à la commission. Hein. C'est des choix qui sont faits nationalement. Après, bon, on n'a pas tous les éléments, nous, au niveau local.
Trop de candidats farfelus, voire incompétents la dernière fois. Trop de démissions en cours de mandat. Plus d'un tiers ont jeté l'éponge. Alors on arrête les frais, assume Nicolas Bay, un des dirigeants du RN.
On préfère ne pas présenter de liste qu'avoir une liste qui ne soit pas à la hauteur. Parfois, on fait le choix de faire l'impasse sur une commune parce que les conditions ne sont pas réunies. Je crois que c'est ce qui caractérise tous les partis politiques. La République En Marche aura de très nombreuses communes, beaucoup plus que le Rassemblement National où ils seront absents.
C'est vrai, mais le RN a lui près d'un demi-siècle et travaille en théorie son implantation locale depuis 10 ans. Dans les Ardennes, la Meuse, la Marne, la Haute-Marne, la Somme, le parti est sans cesse en tête mais n'a toujours pas de jambes. Moins de 5 listes en piste car personne ou presque ne travaille le terrain. La marque Le Pen en freine encore et de manière générale l'engagement politique s'effrite. En 2014, le RN avait présenté 600 listes en France. Il ne devrait y en avoir que 450 cette année.
Maxence Lambrecq. Pénibilité, fin de carrière, pension minimum, des sujets au cœur de la négociation parallèle à la réforme des retraites. Parallèle, mais pourtant ô combien intimement lié, car pour travailler plus longtemps faut-il encore être en bonne santé. Les arbitrages du gouvernement seront conduits cette semaine. Les syndicats estiment que c'est un préalable à toute discussion sur le financement. Alors Hélène Filly, qu'y a-t-il sur la table ?
Le gouvernement souhaite encourager la retraite progressive. Il pourrait donc y avoir des annonces en ce sens. Proposer ce dispositif dès 60 ans au lieu de 62 par exemple. Aujourd'hui, il ne concerne que 18 000 personnes chaque année. L'enjeu des fins de carrière est aussi lié à la pénibilité. L'exécutif ne veut pas réintégrer les 4 critères disparus en 2017. Posture pénible, charge lourde notamment. Mais il est possible de mieux les prendre en compte. Non pas en regardant les situations individuellement, trop compliquées, dénonce le patronat, mais en dressant une liste de métiers jugés pénibles au niveau de la branche et qui donnerait droit à des départs anticipés. Il y a enfin le minimum de pension, 1000 euros en 2022, puis 85% du SMIC en 2025, c'est ce qui est déjà prévu dans le projet de loi. Les syndicats veulent accélérer le calendrier et relever le montant. Le gouvernement pencherait sur d'autres options selon une source proche du dossier, notamment l'ouverture de ce minimum de pension au temps partiel plus rapidement que ce qui est prévu aujourd'hui.
C'est la saison de la présentation des résultats annuels des entreprises du CAC 40. Ceux de Michelin seront particulièrement observés ce lundi. L'équipementier a connu une année 2019 très compliquée. L'usine de La Roche-sur-Yon va fermer définitivement ses portes fin 2020. Face à la conjoncture morose sur les marchés automobiles mondiaux, le géant du pneu tente de se diversifier dans des domaines sur lesquels il n'est pas forcément attendu, comme la pile à hydrogène, Fabien Cazot.
Le bibendum regonflé à l'hydrogène, c'est le pari industriel que fait Michelin. Désireux de surfer sur le succès grandissant du véhicule électrique et d'être moins dépendant du seul marché du pneumatique. La pile à hydrogène a le mérite d'utiliser un combustible propre qui rejette de la vapeur d'eau et qui pourrait équiper 2 millions de véhicules dans le monde à l'horizon 2030. Michelin, associé à l'équipementier Faurecia, a choisi d'investir 140 millions d'euros sur cette technologie, un marché d'avenir selon Valérie Bouillon-Delporte, directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin.
C'est un marché qui débute, hein. Il y a déjà près de 300 véhicules hydrogène qui circulent en France, dont notamment 100 taxis hydrogène à Paris. Et au niveau mondial, vous avez à peu près 15 000 véhicules hydrogène qui ont déjà été déployés. Et surtout sur les véhicules qui sont lourds à électrifier, comme le camion, comme le train, mais également comme le bus.
Car ce sont les poids lourds qui ont vocation à passer plus de temps sur les routes qu'aux bornes de recharge, qui pourraient être le premier débouché naturel de la pile à hydrogène. Pour les voitures, l'avantage principal, c'est d'offrir une autonomie comparable aux véhicules à essence, tout en présentant les qualités techniques d'accélération et de silence propres aux véhicules électriques.
France Inter, il est 7h10, direction le Mali. Laurence, en train de basculer dans une guerre ethnique.
Un enfer, c'est ce que l'organisation Human Rights Watch décrit dans son rapport, un document rendu public aujourd'hui qui pointe les attaques des groupes armés contre les civils, malgré la présence des casques bleus de l'ONU et les 600 soldats supplémentaires de l'opération Barkhane Kloguibal.
97 pages d'un rapport accablant. Cette femme qui raconte son fils de 5 ans abattu devant elle, son bébé d'un an, épargné in extremis lorsque les terroristes réalisent que ce n'est pas un garçon. D'autres disent les balles à bout portant, les machettes qui s'abattent sur les corps, les villages brûlés. Depuis le début du conflit au Mali en 2012, jamais l'année n'a été aussi meurtrière pour les civils. Au moins 500 morts et probablement bien davantage dans le seul centre du pays. Des groupes armés qui terrorisent des communautés entières. Un cycle monstrueux de représailles qui s'installent. Il oppose majoritairement les Peuls, ces nomades musulmans parmi lesquels les djihadistes cherchent à recruter, et les Dogons, ces cultivateurs avec lesquels ils coexistaient jusqu'alors. Mais les groupes armés exploitent les querelles communautaires liées à l'accès aux ressources, à la gestion des terres. Ils jouent sur l'inaction, sur l'incurie de l'État central. Un État central qui s'appuie sur les groupes d'autodéfense villageois, donc communautaires, pour assurer la sécurité dans ces régions. Un cercle vicieux vertigineux qui risque, craignent les experts, d'entraîner le pays vers une guerre ethnique.
Claude Guibal, 6 nominations, 4 Oscars pour la première fois. La Corée du Sud est récompensée à Hollywood. Le film Parasite de Bong Joon-ho a fait le plein à Los Angeles. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur film étranger. Lors d'une soirée plutôt aseptisée, Corinne Pellissier.
Et l'Oscar est décerné à
Parasite.
Voilà, ça restera l'un des temps forts historiques des Oscars, le grand gagnant d'une soirée un peu terne qui semblait presque jouée d'avance, sans présentateur, sans audace, sans grand discours, hormis celui de Joaquin Phoenix, sacré meilleur acteur pour son rôle dans le film Joker, et qui a transformé, comme au BAFTA, son temps de parole en une tribune de lutte contre les injustices.
J'ai l'impression que parfois, on essaye de nous faire croire qu'on se bat pour des causes différentes, alors que pour moi, je vois une cause commune, une cause partagée. On parle d'égalité homme-femme, ou encore de racisme, ou de droits pour les autochtones, pour les animaux, pour les homosexuels. On parle, dans tous ces combats-là, de la lutte contre l'injustice. Il faut se servir de la compassion, de l'humour, pour présider à toutes nos décisions.
On retiendra également des récompenses tout aussi attendues pour Brad Pitt et René Zellweger. Le prix du meilleur scénario adapté pour Jojo Rabbit, comédie satirique sur l'Allemagne nazie. Meilleur film d'animation Toy Story 4. Le français Jérémy Clapin, engagé dans la même catégorie avec J'ai perdu mon corps, n'aura pas réussi à s'imposer face au géant Disney. Déception enfin pour Lajli et puis pour l'autre grand favori de ces Oscars, Sam Mendes, avec son film Virtuose 1917, réalisé à la manière d'un unique plan séquence qui ne remporte que des récompenses technique.
Merci Corinne Pellissier. Les meilleures vidéos de ces Oscars sont à retrouver sur franceinter.fr.
Et merci Laurence Thomas.